APRC et KSI vous présentent Supply Chain Durable. APRC et KSI, producteurs d'immobilier d'entreprise.
Valentina Carbone reçoit Madame Anne Leroland, PDG et fondatrice d'Acte International, sur le thème de la supply chain globale et durable.
Bonjour, aujourd'hui on va aborder le sujet des enjeux durables dans une supply chain internationale, sous l'angle des outils, des normes et des modalités d'accompagnement pour bien entamer une aventure d'internationalisation de sa supply chain. Pour discuter de ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Anne Leroland, fondatrice de la société Acte International.
Bonjour.
Madame Leroland, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ?
Alors, je suis effectivement la fondatrice de cette société Acte International que j'ai créée il y a 25 ans.
25 ans déjà.
Après avoir travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur du transport international qui était à l'origine de cette idée de création d'entreprise.
Alors, pourquoi cette création d'entreprise ? Quelle est la spécificité d'Acte International ?
Eh bien, à l'époque, travaillant dans des entreprises de transport, on ne se préoccupait que de transporter des colis d'un point à un autre. Et moi, je m'intéressais à ce qu'il y avait dans ces colis, où est-ce qu'ils étaient fabriqués, dans quelles conditions. Et mon souhait, c'était d'associer la notion de responsabilité sociale de l'entreprise au métier de supply chain. Et c'est de là qu'est née l'entreprise Acte International.
Donc, on parle de supply chain durable, si je comprends bien, la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, est au cœur de métier de votre entreprise.
Alors, dans la mienne, oui, depuis le début. Et d'ailleurs, c'était compliqué parce que ça remonte à 1995. Et à cette époque-là, on ne parlait pas
le terme.
On ne parlait pas de développement durable.
Et comment vous définissiez l'activité de votre
entreprise ? Eh bien, je disais simplement que nous travaillons sur le commerce international, mais pas à n'importe quel prix. Mm-hmm. Et donc, les conditions dans lesquelles les produits devaient être et produits et transportés et responsable vis-à-vis du consommateur devait être tout de suite intégré dans la responsabilité du supply chain manager.
Pour offrir ces services, vous devez avoir des clients qui sont demandeurs ou au moins qui acceptent ce genre. Est-ce que vous pouvez nous témoigner d'une évolution, parce que ça fait 25 ans que vous gérez cette entreprise, est-ce que vous pouvez constater d'un changement de demande, de sensibilité et de prise de conscience et volonté de changer la façon de faire la supply chain internationale ?
Alors oui, il y a eu deux étapes principales. La première, c'est quand les entreprises ont commencé à acheter à l'international ou à s'exporter de plus en plus, il y a celles qui, dès le départ, ont travaillé d'une manière, je vais dire, réglementaire, conforme, et du coup, naturellement, se sont inscrites dans une recherche aussi d'éthique dans la façon dont elles fabriquaient et transportaient leurs produits. Et puis, plus récemment, depuis une petite dizaine d'années, par le fait d'abord, quand même un peu un effet de mode, d'une demande du consommateur, puis de référentiel, de plus en plus d'obligations légales, d'autres entreprises qui n'étaient pas forcément impliquées sur cet aspect conformité, ont senti que le marché allait bouger si elles ne s'y impliquaient pas. Et là, il y a eu une deuxième vague, je dirais, d'entreprises qui ont dit, voilà, maintenant, on ne peut plus se contenter de faire fabriquer des produits un peu partout dans le monde. Il va falloir qu'on s'implique dans la façon...
Savoir s'il y a des produits
comment
chimiques
ça se passe.
Ou pas,
exactement.
Savoir si on respecte. Et effectivement, vous avez mentionné les contraintes réglementaires. On peut penser à la réglementation REACH pour les produits toxiques. On peut penser à la loi Sapin 2. Contre la corruption, la loi sur le devoir de vigilance. Oui. Est-ce que ces lois, ces instruments réglementaires ont eu un impact aussi sur votre pratique ? Est-ce que ça a changé le type de service que vous offrez à vos clients ?
Alors, dans un premier temps, ça a surtout changé quelque part le périmètre commercial, c'est-à-dire qu'entre celles qui étaient dans cette action-là, par nature, par ADN et par volonté du dirigeant, est venue s'ajouter celle qui était contrainte de s'y mettre.
La compliance.
Ouais. Donc clairement, ça a été un élément de booster pour l'entreprise d'avoir un support légal, et pas qu'en France d'ailleurs, à l'international. Après, en termes d'activité, oui, qu'est-ce qui a changé ? C'est qu'au lieu de travailler sur uniquement des engagements éthiques, il a fallu travailler sur la lecture de lois, leur décryptage et le travail sur la mise en pratique. Et ça, c'est le cœur de métier d'Acte International dans tous les domaines réglementaires qu'elle maîtrise, douanier, fiscal, RSE, anticorruption, c'est de dire je prends des textes qui sont assez quand même touffus et complexes et j'en fais des outils et des pratiques opérationnelles pour que les entreprises puissent effectivement mettre en œuvre.
Vous avez déjà commencé à les lister. Est-ce que vous pouvez mentionner les domaines d'intervention principaux, les axes d'action que vous menez ?
Alors, on dit Acte International est un Global Supply Chain Manager. Pourquoi ? Parce qu'on couvre l'ensemble des maillons d'une supply chain avec quatre grands domaines de compétences, que sont le transport, la logistique, distribution internationale, donc tout ce côté physique de flux de marchandises qui reste de l'historique.
Donc vous êtes aussi un transitaire.
Absolument, nous avons aussi une activité de transitaire, même si c'est, je dirais, extrêmement modeste par rapport aux grands groupes qui existent aujourd'hui. Une activité d'ingénierie douanière et fiscale qui est quand même au cœur de tous les flux internationaux et où la conformité est particulièrement importante. Un volet RSE, donc responsabilité sociale de l'entreprise et prévention de la corruption. Important parce que depuis 20 ans, avec des audits sociaux, des audits environnementaux, des audits de sécurité bâtiment, et donc cette partie prévention de corruption depuis 5 ans maintenant. Et puis tout un volet qu'on appelle protection du consommateur, qui a trait aux standards, normes applicables aux produits, soit lorsqu'on importe ou qu'on l'on produit en Europe, soit lorsque l'on vend dans le reste du monde, dont Rich, avec le sujet des substances préoccupantes.
Vous avez mentionné les audits. Est-ce que vous êtes donc une entreprise qui fait de l'audit de masse? Est-ce que vous faites des milliers, des centaines d'audits par an ou vous avez une modalité particulière pour jouer un rôle dans le domaine des audits?
Alors, c'est vrai que le côté légal du sujet a malheureusement cet effet collatéral que tout le monde se met à produire ou à utiliser l'audit comme le témoin pour dire j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. Nous faisons effectivement de l'audit, mais d'une manière aujourd'hui extrêmement modeste, parce que ce que nous cessons, c'est de ne faire de l'audit social, environnemental ou prévention de corruption que pour des entreprises qui vont lire nos rapports d'audit, qui vont agir avec leurs fournisseurs et qui vont réellement prendre des actions dans le sens de la responsabilité sociale. Je vous donne un exemple. Quand on fait un audit social et qu'on découvre des enfants dans une usine, certaines entreprises vont dire « j'arrête de travailler avec cette usine ». Notre démarche, c'est pas ça. Ça sert à quoi d'avoir envoyé des enfants dans la rue ? Par contre, on peut faire travailler des enfants dans une usine dans des conditions où on va les protéger, dans des conditions où on va garantir qu'ils vont à l'école, dans des conditions où ils vont être rémunérés à proportion du travail qu'ils font, etc. etc. Et là, c'est une cible de clientèle qui est effectivement beaucoup plus engagée sur un plan sociétal et qui dit « mon impact à moi, c'est pas seulement de choisir une usine où il n'y a pas d'enfants, c'est s'il y en a par rapport à un contexte de pays, qu'est-ce que je fais ?»
Pour que ça se fasse dans des solutions adaptées à la situation locale.
Exactement. Donc notre part d'activité, elle est de ce fait plus
donc
étroite.
Un véritable accompagnement.
C'est ça, post-audit. C'est-à-dire qu'on va faire post-audit. Des audits que s'il y a des actions qui vont être engagées post-audit avec une vraie volonté de faire changer les choses.
L'autre domaine sensible, me semble être, celui de l'aide contre la corruption. Ouais. Est-ce que là, vous pouvez nous donner quelques exemples des situations types auxquelles vous pouvez être confrontés et qu'est-ce que vous faites pour aider les entreprises?
Alors, déjà dire que c'est un sujet sur lequel nous-mêmes, nous nous sommes engagés, puisque travaillant dans plus de 60 pays dans le monde, on est exposé au risque de corruption en permanence, comme tout le monde. Et donc, c'est un sujet qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai voulu prendre en main il y a 5 ans et j'ai sollicité d'avoir une certification. À l'époque, c'était la certification éthique intelligence pour nous amener à comprendre de quelle manière nous pouvions être exposés. Et à partir de là, cette expérience nous a permis d'aller voir d'autres entreprises en disant dans votre supply chain vous êtes exposé ou dans d'autres contextes que la supply chain et on va vous aider de manière pratique.
Mais vous n'êtes pas un cabinet de certification quand même.
Alors nous n'intervenons pas en tant que audit certificateur. C'est pas notre choix. Nous nous voulons être dans la préparation, soit la mise en conformité, soit la certification pour ceux qui choisissent une certification éthique intelligence ou ISO 37001 aujourd'hui. Alors, des cas concrets, il y en a des millions, parce qu'il en existe dans toutes les entreprises et dans tous les pays du monde. Ça n'est pas que le fait, on dit souvent, des pays en développement. Non, il y en a aussi en France, à côté de chez nous.
C'est très bien.
Mais il s'agit déjà, par exemple, d'un commercial à qui on confie des objectifs ambitieux et qui, dans son secteur, subit des pratiques de corruption. Si on lui dit « tu n'as pas le droit d'utiliser des pots de vin ou des cadeaux pour obtenir ces marchés », ce monsieur, il ne va pas atteindre ses objectifs. Donc, lui, il est expressément exposé à cette situation. Comment est-ce qu'on travaille avec ce type de population ? Eh bien, on va déjà s'intéresser à la politique salariale, c'est-à-dire comment les objectifs lui sont fixés, quelle est sa part variable qui fait qu'il a une pression par rapport à ça et que peut-être on va le pousser au crime parce que pour réaliser ses objectifs, il va devoir utiliser des méthodes, on va dire, non éthiques.
Donc, vous partez à la recherche des causes primaires de la situation qui peut générer une situation de corruption.
D'ailleurs, quand on travaille sur ce sujet, on ne travaille jamais sur la corruption d'une personne, mais sur l'exposition à la corruption d'une fonction. Donc, on part, et le service RH d'une entreprise est la première concernée, c'est qu'est-ce que j'ai mis dans ma fiche de mission de la personne que j'ai recrutée, quel est son périmètre de mission, à quel moment peut-il être exposé, et comment je fais pour le protéger de cette exposition.
Ce qui permet aussi de pérenniser ces mesures et pouvoir protéger les suivants.
Exactement. Et ce qui permet aussi d'aborder ce sujet dès le recrutement, de faire que ce sujet n'est pas un tabou dans l'entreprise et que si une personne se retrouve confrontée à cette situation, soit à l'aise, sans passer forcément par un système d'alerte officiel, d'en parler à sa direction et de dire « j'ai eu cette situation, qu'est-ce que je dois faire ?»
Madame Leroland, en tant que transitaire, je suis curieuse, donc, est-ce que vous pratiquez les principes que vous essayez d'inculquer ou de partager avec vos clients ? Comment vous faites pour incarner ces valeurs qui vous tiennent à cœur ?
Alors, c'est notre premier terrain de jeu, si je puis dire, oui. Et c'est d'ailleurs notre laboratoire, puisque étant nous-mêmes exposés à ce moment-là, c'est de ça que nous avons appris. Donc, comment avons-nous fait ? D'abord, il a fallu expliquer à l'ensemble de nos partenaires que nous nous étions engagés dans cette démarche-là. Nous savions déjà à quel moment les actes de corruption se commettent dans la supply chain. Prenons un exemple. J'ai un conteneur qui part de Shanghai juste avant le Nouvel An chinois. L'usine a été en retard. Le conteneur se présente au port. C'est trop tard. Il ne peut pas rentrer. La première chose qu'on va essayer de faire dans un transitaire traditionnel, c'est de donner quelque chose à l'agent portuaire pour que le conteneur rentre et puisse partir. Alors, ce sont des petits montants. Mais en général, quand on commence à donner un petit montant, on ouvre la porte à des gros montants. Donc, il a fallu expliquer plusieurs choses à nos partenaires. La première, que nous étions engagés. La deuxième, c'est qu'on acceptait le fait que ce conteneur ne parte pas. Et qu'on soit capable d'expliquer à nos clients que s'il ne part pas, c'est qu'il n'y a pas eu de pot de vin. J'ai souvent des entreprises qui me disent « j'ai un transitaire qui est excellent, je travaille en Amérique latine, en 24 heures, tous les produits sont dédouanés, livrés ». Et là, je dis « moi, à votre place, je m'en inquiéterai ».
J'aurais un soupçon.
C'est pas possible dans notre métier du supply chain. Tous les gens qui travaillent dans la supply chain savent que, notamment les
étapes douanières… Vous travaillez aussi pour faire accepter les risques inhérents au métier même de supply chain.
Parce que si les clients ne l'acceptent pas, ils mettent la pression sur leurs fournisseurs. D'ailleurs, en pensant que comme c'est le transitaire qui va le faire, ils ne sont pas responsables, ce qui est une erreur, puisqu'on parle de corruption indirecte et ils sont tout à fait impliqués.
Madame Leroland, j'aime toujours poser cette question vers la fin de mon interview. Est-ce que vous avez une image, une métaphore, un symbole qui puisse résumer le rôle d'acte international dans les supply chains globales ?
Alors, acte international, on dit en général simplement que c'est une entreprise qui simplifie le monde à ses clients, mais pas à n'importe quelle condition. Et ce qui nous caractérise, c'est, je fais toujours cette comparaison en lien avec la supply chain, c'est que vous avez des entreprises qui sont plutôt des porte-conteneurs et puis des entreprises qui sont plutôt des feeders, hein, si je veux garder ce terme-là. Nous sommes plutôt un feeder. Voilà. Et nous sommes plutôt un feeder, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on va faire le lien entre plusieurs endroits. Et puis surtout, on a la capacité à aménager, adapter, améliorer rapidement des situations que l'on pourrait constater, là où un porte-conteneur va devoir prendre plus de temps, un processus décisionnel plus long, etc. Donc nous sommes agiles, et c'est cette agilité que nous aimons déployer avec nos clients.
Je vous remercie beaucoup. J'étais ravie d'écouter l'aventure, et la future aventure aussi, d'Act International.
Merci à vous.
Au revoir.
APRC KSI vous a présenté Supply Chain Durable. APRC KSI, producteur d'immobilier d'entreprise.